Frère, on est Siman Lamed Bet, Seif Gimel, chapitre 32 et Alaha Gimel. En bas de la page couvrée, en bas. Donc là, on parle de l'ordre, comment on doit écrire le Tfilin. Donc avant les vacances, on a déjà expliqué comment dans les Tfilin, il y avait 4 parachas, 4 parachiotes. Kedesh Nikol Bechor, enfin on a expliqué l'ordre des parachas, la marquette qu'il y avait entre Rachir et Mitav, etc. Ça, on en a parlé avant les vacances. On avait expliqué aussi avant les vacances que dans les tefillines de la tête, il y a 4 compartiments qui correspondent à 4 parachutes et à 4 parachutes différents. Je vais montrer ici, on peut voir les. Voir si j'ai une photo, voilà. Voilà. Donc ici on le voit bien, vous voyez. Ça, c'est un tefilline de la tête. Je viens juste d'expliquer. Ça, c'est un tefilin de la tête. On voit ici clairement à l'intérieur 4 compartiments. Si vous voulez, après, je peux vous prêter le livre.
Il y a 4 fentes et 4 compartiments.
Il y a 4 fentes, 4 compartiments qui correspondent donc à 4 parchemins différents. Ça, c'est les tefilines de la tête. D'accord? Dans les tefilines du bras, il y a un seul compartiment. Puisqu'il y a un seul compartiment, on va écrire les 4 parachas, on va les écrire sur le même parchemin. D'accord? Donc, on prend la page couvrée. On prend la Hakimel. Il dit. Maintenant, Irteven Bidio Shachor. On va parler maintenant de l'encre qu'on doit utiliser pour écrire les téfilines. Donc l'encre pour utiliser les téfilines est une encre qui doit être noire. Alors le Mishnah Brura se pose la question, qu'est-ce qui se passe si c'est une encre bleue? D'accord? Bon, aujourd'hui, on voit des gens qui écrivent avec un stylo noir, des gens qui écrivent avec un stylo bleu. C'est une question de goût. La question s'est posée à l'époque du Mishnah Brura, est-ce qu'on a le droit d'écrire avec... Est-ce qu'on a le droit d'écrire avec une encre qui est bleue? Alors, il amène Maïmonide, etc. Bon, et il explique qu'a priori, la halakha le Moshe Mishina, c'est-à-dire qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu Monsina, que ça doit être noir, noir. Enfin, même pas style noir, bleu, ça va, c'est presque noir. Quelqu'un qui écrit en bleu.
Ou marron très très foncé, ou machin.
Dans la tête des gens, c'est noir. Ouais. On va pas dire pour un style noir. Là, il te dit non. A priori, la halakha est qu'il faut qu'il soit vraiment noir. Donc, Bidio Shachor. Dio, c'est de l'encre chachor noir. Ben Chiechbo Mea Fatim ou Ben Chienbo Ben Chelob Mea Fatim. Donc, Afatim, c'est un arbre particulier. C'est un arbre particulier qui a une manière particulière comment il pousse. D'accord ? C'est expliqué dans le commentaire. Il y a constamment des mouches qui tournent autour de cet arbre. Il y a un arbre particulier avec lequel on fait de l'encre. Des mouches qui tournent autour de cet arbre et ces mouches, non seulement qu'elles n'abîment pas l'arbre, mais elle préserve l'arbre. Intéressant.
Ça existe toujours ça?
Oui, ça existe toujours. D'accord? J'ai pas le nom en... Monsieur Benichou, dommage, il est pas là, il m'aurait donné le nom en latin. Donc c'est un... Avec le nom en latin, il m'aurait retrouvé le... Donc c'est un arbre que non seulement les mouches n'abîment pas quand elles tournent autour, au contraire, les mouches le préservent. D'accord? Les mouches le préservent, et bon, il y a même une chaleur particulière, enfin, quelque chose de très très spécial. Donc c'est un arbre qui va grandir et qu'on va prendre ses feuilles avec ça... Les feuilles, les roseaux aussi, comme explique le commentaire. Et avec ça, on va faire de l'encre. Donc après, ça c'est les détails, comment on va faire l'encre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'encre doit être d'une couleur noire. Aga, là j'ai tourné la page Kouva. Il dit où les khatrila, yachmir, lirtov, bidio, asuya, me'achan, eti, moshmanim, shruyim, femeafatik, moshidder, biyoredea, siman, rachaynalef. Donc il dit les khatrila, quand on écrit l'encre, quand on prépare l'encre, il faut faire de l'encre qui est faite également avec ce qu'il appelle ici Rachan et Tim. D'accord? Alors, je ne pourrais pas vous donner les détails. Si, dommage, M. Benichou, il n'est pas là. Demain, il me dira. Non, c'est pas, il y a des noms en latin. J'ai des noms en latin très précis. Et il me donnera les. Parce que je ne peux pas vous dire en français ça correspond à quoi, j'ai aucune idée. Et lui, avec les noms, il va mes pharmaciens, il va me tout me trouver, mes rattachés. Si vous voulez, les photos, il y a des photos ici, mais je ne pense pas que ça va.
Donne-nous le nom en latin, je vais te le donner, moi.
Voilà. Regardez, je vous montre les photos si vous voulez voir. Ça, c'est ce qu'on récupère des afatim.
C'est les fruits de l'arbre.
Non, justement, ça, c'est ce qu'on récupère. Alors, on va les écraser. D'accord? Vous voyez, on va les écraser. Il les met ici dans la boîte. Mmh. D'accord? Et une fois qu'on les a écrasés, on va faire une poudre. Et c'est avec cette poudre qu'on va créer de l'encre. Vous voyez la photo?
C'est vide. Alors, attends, on prend de la suie ici.
Là, non, attendez, regardez. Vous voyez ça?
C'est le fruit.
Ça, c'est le fruit. C'est ce qu'on enlève de l'arbre. D'accord? On enlève ça de l'arbre. Ensuite, on va le moudre ici, on va le mettre ici, on va le moudre. D'accord? On va faire pratiquement une poudre. Et ensuite, de cette poudre-là, avec un système de mélange qu'on va faire, on va être capable de ressortir, de faire de l'encre. D'accord? De l'encre noire. La couleur qui va ressortir sera une couleur noire. D'accord? Bon, c'est pas mon métier, mais...
Avec la suie qui est faite par le...
Non, là, la suie, c'est autre chose.
Voilà, c'est quoi ça, alors? Ça, c'est la suie.
Où c'est?
La suie qui se fait au fond du verre.
Non, ça... Ça, ils veulent... Oui, d'accord. Ça, ils veulent montrer comment... Ça, c'est pour aider à arriver à la couleur noire. Vous avez compris?
Ouais.
Vous avez vu cette image ici. C'est une technique qu'ils ont. On met une bougie en dessous d'un verre. D'accord? Donc, ça, la bougie avec la fumée de la bougie. Avec la fumée de la bougie, ça va faire, ça va former donc comme une suie, comme ce que vous dites, une sorte de fumée noire, d'accord. Et ça, on le fait avant de mettre la poutre dedans. D'accord, c'est ce qu'il appelle ici Hachaniti. Alors Katav, d'accord, bon, mais ça, bon, c'est le plus important pour nous, ce qu'on va dire après. Katav afilu ot achat bishan minet tivonim. S'il a écrit même une seule lettre bishan minet tivonim dans une autre couleur. Une autre couleur. Un bédiaval, le bleu, c'est cachère. Une autre couleur, ça veut dire il a écrit une lettre en rouge. Si vous voulez, une lettre en rouge. Ou bien même en or. Vous voulez faire la classe, il a dit, moi, la première lettre, j'écris en or.
Hachem, je vais l'écrire. D'accord? Doré.
Doré. C'est quoi le din? Arélup, Soulin, ces téphilines ne sont pas cachères. D'accord? Alors, comme dit Mishnah Broura, il dit, il faut que ce soit des couleurs qui ne ressemblent pas du tout au noir. Par exemple, voilà, le rouge. Ou le vert, c'est une couleur qui n'a rien à voir avec le noir. Mais si c'est une couleur qui ressemble un peu au noir, le diavad c'est caché. Hein. Comme le marron foncé, comme toutes ces couleurs-là, qui sont pas noires. Les khatrila, il faut noir, mais si c'est pas noir, le diavad c'est caché. Hein. Dans quel cas c'est pas caché, hein? Quand c'est une couleur qui ne ressemble pas du tout au noir. Ah, le vert, le rouge. Là, dans ce cas-là, c'est pas ça. Alors, imzarak. Afrod Zahav à la Otiyot. Alors, à l'époque, ils avaient une technique, je sais pas si on le fait encore aujourd'hui. C'est une fois qu'on avait déjà écrit les lettres, on jetait dessus, quand c'était encore un peu mouillé, on jetait dessus une poudre d'or.
Du talc.
D'accord?
D'or.
Mais quand c'était encore mouillé, on jetait dessus une poudre, donc comme des paillettes. C'était une poudre. Une poudre d'or, et ça donnait un effet doré. Alors, quelqu'un, il a fait ça maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les filines sont cachères ou pas? Il a écrit en noir. Mais il a mis cette fameuse poudre. Ouais. Il dit, Ma'avir Azahav, il essaye d'enlever l'or, de gratter l'or, Veicher, Ktavatarton, c'est cachère. Et l'écriture qui est en dessous est cachère. Alors, pourquoi il est venu nous dire le Mishnah Broura? Puisque normalement, il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on, enfin, ça il expliquera surtout par la suite, mais bon, on va pas le faire. On n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle Chok Tuchot. Chok Tuchot, ça veut dire la chose suivante. Imaginez-vous que j'écris mes tefillin. Et bah ici, je dois avoir une photo ici pour vous montrer. Ce sera plus simple avec une photo. Voilà. Je vous montrerai avec un mème. Voilà. Bon. Là on voit une photo d'un mème. Quand je viens, je te montrerai après. Donc là on voit une photo d'un mème. Vous voyez le mème? Ça c'est la forme que doit avoir le mème. Maintenant imaginons que quand le sofer a écrit cette filine, vous voyez, donc le même est formé d'un vav et d'un chav. Tu connais leur forme, Julien? Alors, vous pouvez nous montrer, M. Bismuth. D'accord? Le vav est formé.
C'est un bête.
Là, tu as un vav, tu as un vav, et après tu as un chav à côté.
Et elles sont collées.
Et qui sont collées avec un petit fil. D'accord? Et s'ils sont trop collés, c'est pas cachère. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le sofer, il savait pas? Hein, il a écrit cette filine. Il les a écrits. Seulement, il a pas séparé le vav du chav. C'est-à-dire, il les a fait en un seul morceau. Alors ici, il ne montre pas un exemple, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, où il y a la flèche là, il les a fait en un seul morceau. Après, il s'en rend compte, il dit, bon, ben, c'est pas grave, je gratte. Je gratte et les filines seront cachées. Ça marche pas. Tu peux pas. D'accord? Tu peux pas gratter, c'est trop tard. Tant que t'as pas écrit la lettre suivante, tu peux. Mais une fois que tu as déjà écrit la lettre suivante, c'est trop tard. Dans le Sefer Torah, c'est pas comme ça, heureusement. D'accord? Mais dans les filines et les mezuzot, et c'est pour ça que les tefillines et les mezuzot, ça coûte très cher. Parce qu'il y a toujours, un taux de... Le sofer, il s'est trompé, ben les tefillines, ils sont sur sa tête. Il peut rien faire avec. Enfin, sur sa tête, non, ils sont pas sur sa tête. Enfin, c'est la gnisa.
Ceux du bras sont plus chers que ceux de la tête, mine de rien.
On peut corriger en complétant, et on peut pas corriger en enlevant.
On peut corriger
en complétant. Imaginons, je sais pas, c'était un chet qui a pas été fermé. Tu peux le compléter.
Il faut que le chet soit déjà caché.
Ouais, il a été cachère, et ça s'est un peu effacé.
Non. S'il a déjà été cachère, c'est bon.
Ah, d'accord.
D'accord? Encore une fois, bon, ça c'est le sofer, il verra. Mais s'il a jamais été cachère et que tu veux récupérer, tu peux pas. Et c'est pour ça qu'ici, il a besoin de nous dire le Shulchan de Mishnah Moura, hein, il a besoin de nous dire que ici, dans notre cas, hein, bien qu'on a jeté une poudre d'or, et que toi, a priori, tu vas enlever la poudre d'or, mais quand tu enlèves la poudre d'or? Tu enlèves cette poudre une fois que tu as déjà fini les téphilines. Donc c'est trop tard. Là, il te répond, il dit non, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Puisque, étant donné que la poudre est quelque chose de supplémentaire, donc j'ai fait que qu'enlever une couche supplémentaire, mais la couche en dessous était déjà cachère en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ils ont déjà été cachères, donc c'est pour ça qu'on peut récupérer, c'est pour ça qu'on peut récupérer. C'est pour ça qu'ils nous précisent. Parce que sinon, ça n'aurait pas été bon. Je continue.
Non, s'il met la poudre au fur et à mesure.
S'il met,
la poudre au fur et à mesure.
Ça change pas. Alors, parce qu'on considère toujours la poudre comme quelque chose de supplémentaire. Comme de la saleté. Tu l'enlèves, tu grattes, il n'y a pas de problème. J'ai perdu ma page. Page que vous avez mis. Il y a beaucoup, beaucoup d'alakhot sur les féminines. Aval im zarakaza aval ot me askarot en lo takana. Ah. Par contre, il y a une exception. Il y a une exception de certaines lettres dans les tefilines sur lesquelles on ne peut pas, sur lesquelles on peut pas les récupérer s'il y a de l'eau, si on a jeté cette fameuse poudre d'or dessus. C'est quoi, hein? C'est si on a mis de l'or sur une des lettres des askarot. C'est quoi les askarot? Askarot, c'est les mentions du nom de Dieu. Hachem, Elohim, Elokechem, etc. Pourquoi? Les fiches à sourd les avir azav, mishum de avec mochek et Hachem. Là, on rentre dans un autre problème. C'est-à-dire, techniquement, tu aurais pu enlever cette poudre.
Mais.
Puisque, techniquement, c'est une couche supplémentaire. Sauf qu'il y a un problème. C'est que quand tu enlèves cette poudre, ça peut paraître comme si que tu es en train d'effacer le nom de Dieu. Or, c'est très très grave d'effacer le nom de Dieu. C'est dans les 10 commandements. D'accord? Donc, pour ne pas paraître comme quelqu'un qui est en train d'effacer le nom de Dieu, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, assure de les toucher. Bien que techniquement, on pourrait les réparer. Et c'est juste une poutre, c'est supplémentaire, on pourrait les réparer. On te dit, c'est assure. Parce que ça paraît comme si on est en train d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous comprenez bien que pour de la saleté, ça ne s'applique pas. Par exemple, imaginez-vous, le parchemin s'est sali, et j'ai envie de le gratter un petit peu pour le nettoyer. Est-ce que c'est un problème? Pas un problème. Parce que est-ce qu'une personne qui me regarde a l'impression que je suis en train de gratter le nom de Dieu, de l'effacer? Non. Alors que là, on a l'impression que tu es en train d'effacer, et ça pose problème.
Et pour mettre un coup d'encre sur l'or?
Est-ce qu'on peut le remettre?
Un coup d'encre sur l'or?
Non. Parce qu'il faut récupérer la couche initiale, la couche qui était cachée.
D'accord.
Sinon, c'est pas bon. Ensuite.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce bout de parchemin où il y a le nom de Dieu avec
Gnisa,
de l'or?
Gnisa. On peut rien faire. Gnisa. Ah. C'est pas soul. Pas soul, ça veut pas dire que ça va à la poubelle, hein.
Bah, ça va avec Gnisa.
Bien sûr, Gnisa.
Oui. Pas la poubelle.
Ensuite, on fait à la Hadalet. Je fais quelques à la Hadalet, juste pour comprendre le boulot du sofer. Je vous promets, et avec ça, on fait même pas 10% des à la Hadalet. Après, là, j'ai un livre entier, que j'ai acheté en Israël l'année dernière, qui explique tous les cas de figure possibles dans les lettres. Voilà, là, juste ici, j'ai un, voilà, quel jour, voilà, juste un Haïd ici. Vous voyez, j'ai 6 images possibles de Haïd. Il y en a qui sont cachères, il y en a qui sont pas cachères. D'accord? Bon, c'est très compliqué. Voilà, faites pas comprendre, c'est très compliqué. C'est juste, on fait quelques halakhot pour comprendre le boulot du sofer. Sur chaque lettre, comme ça. Chaque lettre, il s'arrête, il explique.
Ah, bon, hein.
Ah oui, c'est très compliqué. Voilà, sur le Dalet, j'ai encore ici 5 modèles. Sur le P, j'ai carrément 11 modèles ici. 11 modèles sur le P. Il y a 11 manières différentes de faire le P. C'est compliqué, hein. Ah, c'est de la, comment on appelle ça, de la calligraphie, quoi, c'est compliqué. Mm-hmm. Alors, tarich chez l'otidbak shum ot bachaverta. Il faut faire très attention à ce qu'aucune lettre ne touche la lettre suivante ou la lettre précédente.
Que les lettres se touchent, quoi.
D'accord. Et ça, c'est particulièrement compliqué quand on écrit des petites filines. Malheureusement, quand on achète aujourd'hui, on fait pratiquement plus des tout petites filines. Vous direz en Israël, on fait pratiquement plus des petites filines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les sofrim professionnels minutieux comme à l'époque, qui était capable de vous écrire des parachats très petits sans qu'une lettre touche l'autre. Quand j'ai parlé avec un sofer à Butlowitch, il m'a dit qu'aujourd'hui les petites téfilines, la majorité des petites téfilines, quand il les ouvre, il voit il y a des lettres qui se collent. Et il regarde avec une loupe, parce qu'il faut regarder avec une loupe. Et donc du coup c'est pas caché. C'est pour ça qu'aujourd'hui la majorité des téfilines sont un peu plus grosses. À l'époque on avait des toutes téfilines miniatures, aujourd'hui ça se fait plus. On peut le faire, techniquement on peut le faire. Mais c'est très compliqué. Comme il dit ici. Tsarich lizae, tsarich shelo tidbak shum ot bachaverta. Faire très attention à ce qu'aucune lettre ne touche l'autre lettre. D'accord. Alors, et la kol ot tiye mukefet gvil. Chaque lettre doit être entourée. Gvil, c'est quoi le gvil? Gvil, ça veut dire de parchemin. Chaque lettre doit être entourée de parchemin.
De vide, quoi?
De vide. Il faut qu'il y ait du vide autour. Chaque lettre. D'accord? Bien sûr, c'est pas le cas quand on écrit en français. Quand on écrit en français, chaque lettre n'est pas entourée de vide. C'est si écrit une lettre, mais c'est écrit plusieurs lettres. Non. Il faut faire très attention de les séparer. Virtov Ktiva Tama. Il doit écrire Ktiva Tama. D'accord? Ça veut dire quoi Ktiva Tama? Ça veut dire une écriture parfaite. Alors, une écriture parfaite, ça veut dire quoi? Le Mishnah Brura, ça veut dire par exemple qu'un bet doit ressembler à un bet et pas à un chaf. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le bet peut ressembler. Le bet, viens, je tombe dans ta main. Tu vois, le chaf il est comme ça. Et le bet, c'est la même chose, mais on rajoute un petit trait derrière. Il faut pas qu'il y ait de doute. Il faut que quand tu lis, tu vois clairement un bet ou un chaf. Ce qu'on appelle Ktiva Tama. C'est-à-dire une écriture parfaite. Bien que. Alors c'est pourquoi il écrit Ktiva Tama? Parce que des fois, hein, c'est écrit d'une manière que, bon, normalement, tu aurais dû écrire un bet, tu écris un chaf, mais comme la personne connaît par cœur la paracha du schéma, donc elle comprend ce qui est écrit. Vous savez, comme on écrit pas toujours, les lettres ne sont pas toujours écrites parfaitement. Des fois, les i ou les a ne sont pas écrits parfaitement. Seulement quoi, comme la personne qui va lire, elle sait lire, elle connaît le mot, donc même s'il manque quelques lettres, elle comprend ce que ça veut dire. Dans l'écriture des téphilines, la Torah nous demande d'écrire Ktiva Tama. C'est-à-dire une écriture Tama. C'est quoi le Tam dans la Haggadah? C'est le simple. Ça veut dire, il n'y a pas, on dit, bon, il manque une lettre et tu comprends de quoi je parle. Non, il n'y a pas. Ktiva Tama, c'est-à-dire, il faut que quelqu'un qui n'a jamais lu et qui ne sait pas de quoi tu parles, il lit lettre par lettre et il comprend tes lettres. D'accord? C'est la même chose pour le Sefer Torah. Ktiva Tama. Une écriture parfaite, une écriture intègre. Shelo Yersar Afilu Kutso Shalyud. Il ne faut même pas manquer le code Ziyud. Alors, c'est quoi le code Ziyud? Au-dessus de la lettre U, donc la lettre U c'est un petit point, et au-dessus de la lettre U, on a ce qu'on appelle les tagim.
Pas de doigt.
D'accord? Les tagim, voilà, je vous montre. Voilà.
D'où vient le mot tag? Alors, sur les...
Vous voyez ici, on a une forme d'une lettre U. D'accord? Donc la lettre U, donc, c'est comme une sorte de larme. D'accord? Parce qu'on s'imagine une larme. Et au-dessus de cette larme, on a un petit tag. Un petit tag, ça veut dire un petit trait. Vous voyez, vous voyez ici le petit trait tout en haut? Un tout petit truc, tu vois ce que je veux dire? Le?
Non,
là on parle du yud, de l'écriture du yud. Donc c'est comme une larme, comme ça. Il y a un petit trait en dessus. D'accord?
Petite lettre.
Donc on a l'impression que c'est décoratif. Vous voyez de quoi je parle? Vous arrivez à voir? Ça s'appelle un tag. D'accord? Il y a plusieurs catégories de tags. Il y a des tags qui sont comme ça, ça veut dire que c'est juste la lettre remonte un petit peu. Il y a des tags qui sont complètement affirmés, c'est-à-dire qu'il y a carrément un trait dessus. Comme ici, comme le hé par exemple. Bon là il est mal fait, mais c'est juste pour montrer un modèle de quelque chose qui est mal fait, mais là vous voyez le ça c'est un vrai tag. Vous voyez ici? D'accord. Alors, il faut que ce soit parfait, ça veut dire que ne pas manquer même le tag du yud, ça veut dire rien manquer du tout. C'est ce qu'il dit ici.
C'est quoi l'importance de ce
tag? Veillez metouya qu'il rate. Ça c'est Alakha Moshe Mishinaï.
Ah ouais. C'est les secrets des Sofrim. De ceux qui savent, hein.
On dit que Rabbi Akiva, il était capable d'expliquer chaque tag, sur chaque tag de chaque lettre, il était capable d'expliquer qu'est-ce que voulait dire le tag et qu'est-ce que le tag rajoutait à la lettre. Mais bon, il faut Rabbi Akiva voir ça.
Chaque lettre, toujours le même tag.
Oui, chaque lettre, toujours le même tag.
Mon tag. En allemand, tout le monde connaît les tags.
Alors, donc il y a, alors je vous explique. Il y a ce qu'on appelle le Kutso Shelyud. Kutso Shelyud, c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le fait que le Yud dépasse un petit peu en haut, comme je vous ai montré. Et il y a ce qu'on appelle les Tagim, les vrais Tagim. D'accord? Donc, les vrais Tagim se trouvent uniquement dans les lettres Sha'atnez Get. Hein, c'est un signe que le Sofrim se rappelle. Donc, Shin, Ra'in, Tet, Nun, Zain, et Gimel, Tzadik. D'accord? Sur toutes ces lettres-là, il y a toujours un tag. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai un Ain ici, vous remarquez. Sur le Ain ici, qu'est-ce qu'on a? On voit ici clairement trois tags.
Voilà, ça
c'est un tag. Maintenant, sur le P, vous avez remarqué, sur le P, on a l'impression comme une petite antenne dessus. Ça c'est pas un tag.
Le Aleph aussi.
D'accord? Ça c'est pas un tag, c'est ce qu'on appelle un kotz. Un kotz, c'est comme une épine qui ressort. Tu viens avec nous? D'accord? Donc il y a le code, c'est une épine qui ressort. Vous voyez, on le voit bien ici, cette image. Le P, dans le P ici, on voit comme une épine qui ressort. Et dans le Aïn, on voit carrément, c'est décoratif, c'est carrément un tag. D'accord? Donc il faut faire attention, chaque chose qui est écrite, il faut le faire. Donc quand il y a un code, il faut mettre le code. Quand il y a un tag, il faut mettre le tag. Il y a 7 lettres sur lesquelles on doit mettre le tag. Shat, Nez, Get. D'accord? Donc chaque chose doit être parfaitement.
Excuse-moi, mais cette lettre-là...
Oui, hein. Quelle lettre?
Cette lettre, c'est quoi ça?
Non,
c'est un Aleph, c'est un Aïn, c'est quoi?
C'est un début de Aleph.
Ah d'accord.
D'accord, c'est un début de Aleph, justement, et là il est pas bon parce que la barre est trop large. On continue. Bokertov.
Je vais déposer Julien.
Oui.
Déposer, tu l'accompagnes.
oui, avec plaisir, pas de problème. Ou les khatrila, irtov, ktiva, gasak, tzat. Bon. Maintenant, il y a autre chose encore. Quand on écrit, vous avez remarqué que l'écriture de Tefilin, l'écriture qu'on a ici, c'est une écriture qui est un peu épaisse. Vous remarquez ici, on le voit clairement ici. C'est-à-dire qu'on va utiliser donc une plume, d'accord, qui est assez large pour que la lettre soit assez épaisse. Est-ce qu'on pourrait pas les faire fines? Vous voyez, par exemple ici, le haïn, ce haïn-là, il est fin. Est-ce qu'on pourrait écrire les Tefilin comme ça? Alors, il dit, c'est cachère. Tu peux écrire les Tefilin comme ça. Miniature, pas de problème, on te dira rien du tout, c'est cachère. Sauf que, pourquoi on conseille d'écrire des lettres larges, d'accord? Exactement, parce que quand c'est large, ça s'efface moins vite. D'accord? C'est la seule raison. T'as plus de marge, mais si ça s'efface un petit peu, t'as plus de marge, c'est la raison. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que dans les films, aujourd'hui, c'est écrit plutôt large.
Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que quand elles sont épaisses, il y a des lettres qui peuvent se vider, là.
C'est-à-dire?
Dans le gros trait, des fois, c'est pas plein.
Oui, j'ai compris. C'est
alors
pas plein
c'est
partout.
Fin, c'est fin.
Oui, mais en général,
oui, mais c'est pas
voilà. En général, ce que je veux dire.
Là aussi, si ça s'est vidé à l'intérieur et qu'il reste que les flancs de l'épaisseur, c'est pas caché non plus.
Ici dans cette image, d'accord, on voit. Ici dans cette image, on voit bien ce que ça veut dire. Regardez par ici. Ici, j'ai 9 modèles de bêtes. Vous voyez ici. Bon, après, il faudra qu'on passe à d'autres cours parce que c'était les lois de Sofrim. Vous voyez, j'ai 9 modèles de bêtes. Vous les voyez? Ça, c'est un bon bête. Vous le voyez ou pas?
Tu le vois?
Regardez, là, j'ai 9 modèles de bêtes. Ça, c'est un bon bête. Parce que vous voyez, pourquoi c'est un bon bête? Parce que vous voyez que tout est large. La tige d'en haut, elle est large. La tige d'en bas, elle est large. La tige du milieu, elle est aussi large. Elle n'est pas large que l'autre, mais elle est aussi large. D'accord? Un exemple d'un bête qui serait fin, qui serait problématique, c'est celui-là. Qui est cachère. D'accord? Vous voyez celui-là? Vous avez un grand trait en haut, un grand trait en bas et un trait très très fin au milieu.
Vous avez un trait égal.
D'accord? C'est cachère. Mais le problème, c'est que ce trait qui est au milieu, il risque de s'effacer très rapidement. Avec la transpiration, etc., il risque de s'effacer. C'est pour ça que le sofer, il va l'écrire comment? Comme ça. Vous voyez? Là, on a un exemple de Ktiva Gassa. On a un exemple de ce que ça veut dire écrire une écriture épaisse. Vous voyez?
Ouais.
Tu arrives à voir les hauts d'ici?
Ouais.
D'accord. Ça c'est Ktiva Gassa. Vechen mitzva liyapotan mi bachutz ou mi bifnim. D'accord? C'est une mitzvah également d'écrire des belles lettres. D'accord? De belles lettres à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire quoi? D'accord? Ça veut dire que la lettre doit être une lettre qui est joliment formée et à l'intérieur de la lettre et à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment de la calligraphie. Alors, c'est pas obligé. Un sofer qui a une écriture qui est moche et qui écrit les tefillin et que bon, tu as la lettre qui est bien écrite. Est-ce que c'est cachère? C'est cachère, pas de problème. Sauf que, il y a une mitzvah que la lettre soit belle. C'est-à-dire bien formée à l'intérieur, bien formée à l'extérieur. Je vais expliquer ce que ça veut dire bien formée à l'intérieur et à l'extérieur. On va montrer par exemple, ouais, avec le P. Voilà, là on a un exemple d'un P. Vous voyez le P ici? Donc, bien formé à l'extérieur, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire bien arrondi. Vous voyez que c'est bien arrondi, il y a une antenne ici. Ça s'appelle bien formé à l'extérieur. Bien formé à l'intérieur, vous remarquez à l'intérieur? On a comme une forme de... On a l'impression que c'est... Est-ce que vous remarquez à l'intérieur c'est comme si qu'il y a un bête qui est écrit à l'intérieur. Vous avez remarqué ou pas? Regardez bien le P.
Ah oui, un bête, on le voit.
Dans l'espace qu'il y a dans le P,
on le voit bien, le P.
On a l'impression qu'il y a un bête qui est écrit.
Exact.
Vous le voyez ou pas?
Ouais.
Ça c'est quoi? Il y a certains qui ont ce minage. Ça s'appelle une lettre qui est bien écrite à l'intérieur. C'est pas obligé.
C'est un P.
C'est un P, mais avec les espaces qui est à l'intérieur forment un bête.
C'est chouette, hein?
Ça s'appelle une lettre bien formée à l'intérieur.
À l'école, moi.
À part le P, il y a combien de lettres comme ça qui nous font
Il y a plein de lettres comme ça.
Qui nous font un.
Qui nous font un double, double jeu.
Ouais. On a chinoise.
Attends, il y a une...
Intéressant là, parce qu'on peut trouver quelque chose.
Ah, bien sûr, c'est intéressant.
On peut trouver des codes de.
Par ici, le trésor, là-bas,
qu'est-ce
droite.
On a comme lettres encore. Bon, on a des lettres qui sont connues. Comme par exemple, Dalet. D'accord, il est formé par. Il est formé.
Oui.
Le Hé, pardon, est formé par un Dalet
et
un Yud renversé. D'accord. Le Chet. D'accord.
Deux
Aïn. Deux Aïn. C'est pas exactement deux Aïn. Vous allez voir ici. D'accord. C'est plutôt. Alors, il y en a qui le font comme deux Aïn, il y en a qui le font comme un Zaïn et un Vav. D'accord. Là, c'est deux Aïn.
Là, c'est deux Vav.
D'accord. Mais là, vous voyez ici, c'est deux Vav. Donc là, ils vous montrent les différents exemples. Il y a différents exemples, et justement, il faut les montrer. Oui. Tant qu'il n'a pas fait la lettre suivante, il peut. C'est pour ça que le sofer doit être quelqu'un de Yireh Shamaï, qui craint Dieu. Parce que tu comprends, le sofer, il peut se tromper, il se plante, et il peut réparer après, mais personne ne saura. Personne ne saura, parce qu'on a expliqué que la lettre, tant qu'il n'a pas écrit la lettre suivante, il peut réparer. Personne ne saura, c'est entre lui et Dieu.
Ah, mais il doit méditer entre chaque lettre.
C'est pour ça que le sofer doit être quelqu'un de confiance. Moi, j'ai quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il arrive à la fin, il la revoit.
L'avant-dernière lettre.
Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Il se rend compte qu'il a fait une erreur au début.
Il continue.
Il efface. Il répare. Et quand on dit, ah, c'est effacé, il dit, oui, je l'ai effacé sur place. Je peux rien savoir. Impossible de savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. D'accord? Alors, venons enfin encore une halakha. Tsarir shirtov. Allez, halakha he. Tsarir shirtov bimino. Il faut écrire avec la main droite. Afilou Cholet Bushtayala, imaginez-vous un sofer qui peut écrire avec la main gauche et la main droite. Il écrit avec les deux mains. D'accord? Il est ambidex.
Ambi.
Ambidex, ambidex. Bon.
Ambi, ambi.
D'accord. Il est ambi. Il écrit avec les deux mains. Il écrit bien avec la main gauche. Il y a une mitzvah, d'accord? D'écrire avec la main droite. Ve'im katav bismol psulim. S'il a écrit avec la main gauche, attention. S'il écrit avec la main gauche, mais qu'il est droitier et que la main qu'il maîtrise est la droite.
D'accord. Si c'est un gaucher de chez gaucher, il n'y a pas de problème.
Voilà. Dans ce cas-là, les tfilines ne sont pas soudes. Dans quel cas? Im efchar limtsor ring tuvim beyamin. S'il y a possibilité de trouver d'autres tfilines écrits avec la main droite. S'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autre chose à faire, etc. Dans ce cas-là, on prend ça. Mais s'il y a une possibilité de trouver d'autres tfilines, c'est quoi le din? Si c'est un droitier qui a écrit et que il n'écrit pas avec la main gauche. Mais bon, là, il voulait s'amuser, il écrit avec la main gauche. Les tfilines ne sont pas soudes. Ve iteriad, quand c'est une personne qui est gaucher, iteriad c'est un gaucher, smol d'idé aveyamin. Un gaucher, comment il écrit?
Avec sa main gauche.
Avec sa main gauche. Alors, est-ce qu'on peut avoir un sofer gaucher?
Je pense que oui.
Alors, il dit, pour le gaucher, d'accord, sa gauche, c'est sa main droite.
Bien sûr.
Donc, il écrit avec sa main gauche.
En plus, il est avantagé. C'est facile.
D'accord. Facile. Donc, si le gaucher... Non, attendez, attention, c'est un piège. Ça veut dire que si le gaucher, d'accord, vous avez un gaucher qui peut écrire aussi avec la main droite. Est-ce qu'il a le droit d'écrire avec la main droite?
Ah non.
Il n'a pas le droit.
C'est clair.
C'est plus facile pour un gaucher.
D'accord. Il n'a pas le droit, c'est assourd. Parce que sa main gauche, c'est sa main droite. C'est ce qu'il dit. Small d'idée à Veyami.
Comment ça c'est plus facile? C'est la même chose.
D'utiliser un autre moyen que l'écriture à la main.
Non. J'ai pensé, moi, à la machine à écrire.
Oui, j'ai compris la question, oui.
Pas à l'ordinateur, machine à écrire. C'est un... Chaque lettre qu'il a
en tout cas, le Shulchan Aruch, il parle à chaque fois de Ktiva, d'écrire. Ktiva, c'est Kotev.
Il n'y avait pas l'imprimerie, il n'y avait pas la photocopie, il n'y avait pas la photo, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a des modes d'impression qui pourraient ne pas effleurer, ne brûler le papier ou brûler le parchemin, qui pourraient utiliser cette encre-là.
Enfin, on nous parle d'un sofer, en tout cas, dans le Shulchan Aruch, on nous parle d'un sofer qui écrit avec une kavana, avant chaque lettre, etc. Maintenant, bon, bien sûr qu'ils peuvent en parler parce que ça n'existait pas. Le vrai problème aujourd'hui se pose pas avec les photocopies à mon avis, se pose en autre chose. Aujourd'hui ils ont fait des machines, en Allemagne ils ont fait ça. Ils ont fait une machine qui est capable de faire de la calligraphie comme un homme. Parce que c'est quoi le problème qu'on a avec les machines? C'est que les machines quand elles font de la calligraphie elles font pas d'erreur. Alors qu'un homme, quand il fait de la calligraphie, il n'y a pas une lettre qui ressemble à l'autre.
Évidemment.
On est d'accord, c'est pour ça qu'on remarque tout de suite quand c'est un homme qui l'a fait. Aujourd'hui ils ont fait une machine, en Allemagne, d'accord, qui vous fait de la calligraphie comme si c'était un homme, c'est-à-dire qu'il tremble exactement comme un homme, même chose. D'accord. Et qui écrit très vite, mais ça veut dire elle écrit comme l'homme. C'est pas là comme la photocopie qui se passe en un passage. Ça reproduit comme ça, comme et il tremble, et il fait tout la même chose. D'accord.
Dans les impressions de quand on prend un
électrocardiogramme. Oui, oui. Là, mais là, ils ont fait un système qui c'est exactement comme l'homme. C'est-à-dire que ça tremble comme la main de l'homme, etc. Sauf qu'il n'y a pas une lettre qui ressemble à l'autre. Alors là, c'est... imaginez-vous, on écrit les tefillines comme ça. Impossible de savoir que c'est pas un homme qui l'a fait. Impossible. Ils ont montré à des
preuves. Si, on peut étudier les algorithmes des tremblements.
Non, impossible.
Que tous les 50 lettres, c'est le même.
Non, justement. Ils ont fait un système que ça tremble comme un homme. C'est ça la force. Impossible de savoir.
Oui, on va trouver les tremblements. Et on va mesurer combien il y a de tremblements. Parce qu'on n'arrive pas à avoir un truc totalement aléatoire
mathématiques pures. C'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, ils ont sorti ça. Bon, mais après, encore une fois, la Torah nous parle du Kavana quand on écrit, que c'est une personne qui doit écrire, etc. Alors, on fait encore une petite halakha, on s'arrête. Quelle heure? Il est déjà demi? Bon, on s'arrête là. Ok. On s'arrête là. Bon, on fera encore quelques halakhot sur le parchemin, etc. Après, on passera à la suite. Voilà. Allez, bonne rentrée.